Le bus du cœur des femmes se déploie dans 15 villes par an en France. Il consiste en un repérage cardiovasculaire, métabolique et gynécologique des femmes, avec également une formation au geste de l'automesure tensionnelle. Ce geste est très important pour la prévention féminine et puisqu'il leur sera remis un appareil de tension gratuitement à la fin du dépistage. On travaille avec les caisses primaires d'assurance maladie en local ainsi que les services des mairies pour permettre aux femmes de se préinscrire. Le dépistage dure environ 1h30 et c'est sur rendez-vous pour justement qu'elles puissent avoir de la qualité dans l'entretien médical qu'elles auront et dans le repérage des paramètres cliniques et biologiques.
Et on l'a dit, cette opération, elle existe parce que c'est un véritable fléau. On peut le dire en France aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires, vous pouvez un peu rappeler ce que ça représente?
Alors, les maladies cardiovasculaires aujourd'hui en France tuent 200 femmes par jour, 2 femmes par accident de la route, 33 femmes par cancer du sein. Il ne faut pas opposer le cancer du sein et les maladies cardiovasculaires, car les femmes qui ont eu des rayons ou une chimiothérapie pour un cancer du sein sont aussi à risque, parce que leur cœur aura été fragilisé. On a un constat également que 80% des femmes mettent leur santé de leur côté, c'est-à-dire qu'elles s'estiment en bonne santé tant qu'elles ne sont pas malades, quelle que soit la maladie. Elles font de l'automédication. Quand elles ont des symptômes comme des douleurs dans la poitrine, un essoufflement, une fatigabilité anormale à l'effort, elles vont mettre ça sur le surpoids, sur le stress, sur l'âge, et donc elles ne vont pas penser que ça peut être une maladie du cœur. Donc il faut être pragmatique si on veut sauver des vies, 10 000 vies sur 5 ans, il faut proposer un repérage systématique aux trois phases clés de notre vie hormonale, c'est-à-dire la contraception, la première ou le renouvellement, le suivi de grossesse, mais après la grossesse quand il y aura eu un problème pendant la grossesse, et l'entrée dans la ménopause, puis après, ça sera dicté par le bilan initial. Donc si on est finalement en amont de la maladie, en repérage des facteurs de risque, et en enseignant aussi aux femmes la façon de faire, je dois aussi demander mes rendez-vous, elles ne doivent pas attendre que ça tombe tout seul. Elles peuvent aussi s'auto-dépister sur le poids, la taille, demander leur bilan biologique, faire une auto-mesure, écouter leurs symptômes. Donc voilà, c'est leur apprendre à se dépister et ensuite à demander le rendez-vous qui va bien.
Quels sont les signes à faire attention? Quels sont les gestes qu'il faut faire attention dans la vie de tous les jours?
Alors déjà, il faut savoir que l'accident n'arrive pas par hasard, mais quand il tue, il tue. Quand je sais que j'ai une hérédité familiale d'accident coronaire ou d'accident vasculaire cérébral dans la famille, quand je suis fumeuse ou que j'ai eu un passé de fumeuse, que j'ai aussi une hérédité d'hypertension, que j'ai un petit surpoids, il y a des symptômes qui ne sont pas comme d'habitude. Je fais un effort, je monte 3 escaliers, avant je vais monter sans problème, là je suis essoufflée, j'ai une impression de gêne dans la poitrine, de douleur entre les omoplates qui me réveillent la nuit, c'est pas forcément normal. Ça veut pas dire que j'ai une crampe à la marche dans le mollet. On me dit que c'est une sciatique, mais c'est bizarre, c'est dès que je marche, j'ai mal dans la jambe. Ben, ces symptômes-là, les femmes, il faut leur enseigner ces symptômes particuliers et leur dire qu'il vaut mieux faire un bilan en trop que pas de bilan du tout. Moi, pour moi, une dame que je reçois en consultation, le plus souvent adressée par les gynécologues ou par elles-mêmes, parce qu'elles ont vu sur les réseaux sociaux, ou elles vous ont écouté, ou elles ont lu les journaux, eh bien, je me dis, cette femme-là, c'est une dame qui est potentiellement cardiovasculaire jusqu'à preuve du contraire. Et c'est une fois qu'on aura fait les examens qu'on pourra rassurer la dame. Et enfin, les femmes à l'entrée dans la ménopause, maintenant aujourd'hui, on réhabilite le traitement hormonal de la ménopause, mais avec le double bilan gynécologique, mammographie, frottis cervico-utérin, mais également cardiovasculaire. C'est-à-dire qu'on va dépister ces femmes et voir s'il n'y a pas de contre-indication cardiovasculaire à mettre en place des hormones par voie transdermique.
Est-ce que vous pouvez revenir sur les principaux enseignements, on va dire, que vous tirez de cet observatoire, de ces données que vous avez récoltées grâce à cette opération?
Alors déjà, c'est des données qui ont été recueillies sur 2021 plus 2022, c'est le principe de l'observatoire. Et en fait, sur ces 4300 femmes qui ont bénéficié du dépistage et dont on a pu exploiter correctement les données, 9 sur 10 avaient au moins 2 facteurs de risque cardiovasculaire classiques, hypertension, tabac, cholestérol, diabète. 50% avaient au moins 2 facteurs de risque gynéco-obstétricaux, par exemple avoir eu de l'hypertension pendant la grossesse, avoir eu ses règles à 11 ans. Et un peu plus de la moitié avaient à la fois 2 facteurs de risque cardiovasculaire et 2 facteurs de risque gynéco-obstétricaux. Ce sont des femmes qui sont très sédentaires, un tiers d'entre elles, qui sont également très stressées ou dépressives, un tiers d'entre elles. Et on se rend compte que presque 8 femmes sur 10, alors qu'elles sont à haut risque, n'ont jamais vu un médecin cardiovasculaire de leur vie. Elles ne sont pas dépistées. 30% d'entre elles n'ont pas de suivi gynécologique, c'est-à-dire une mammographie quand elles sont en âge de l'avoir, un frottis cervico-utérin, une consultation gynéco. Donc finalement, on se rend compte sur cet observatoire que ce sont des populations qui sont à haut risque. Alors on a travaillé en 2022 avec un score qu'on appelle EPIS, la précarité, mais finalement que ces femmes soient précaires ou non, elles sont toutes à risque cardiovasculaire et gynécologique. Donc ça veut dire que toutes les femmes devraient pouvoir bénéficier d'un repérage des facteurs de risque lors de la contraception ou de son renouvellement, ce n'est pas un jouet, hein, ni un bonbon, lors de la grossesse, on a des grossesses de plus en plus tardives et du coup à haut risque, et à l'entrée dans la ménopause. C'est comme ça qu'on fera bouger les lignes en France.
Pour revenir au niveau du fait que vous expliquez que maladie cardiovasculaire, c'est le taux de décès le plus important chez les femmes, il y a deux fois plus de risques d'issues défavorables, voire de décès chez les femmes que chez les hommes. Mais qu'est-ce qui peut expliquer tous ces facteurs ?
Effectivement, les femmes ont deux fois plus de risques de mourir à un mois et à un an après le premier accident cardiovasculaire, tout simplement parce qu'elles ont énormément de comorbidités. Quand elles font leur premier accident, elles ont plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'obésité. C'est un mauvais facteur pour les femmes qui vont en réanimation. Elles appellent trop tardivement. La maladie, elle traîne en fait depuis longtemps. Donc quand on fait l'examen qu'on appelle la coronarographie, c'est-à-dire elle est injectée du produit de contraste dans les artères du cœur, on s'aperçoit que ce sont des lésions, des artères très malades et qui ne sont pas accessibles à une revascularisation. Et on a 2 heures pour ouvrir une artère coronaire. Pareil pour une artère cérébrale. Et si elles appellent à 5 heures, c'est trop tard. Donc on va regarder ce qui est viable et on va regarder ensuite a posteriori ce qui est possible de faire. Mais c'est clairement une perte de chance. Donc si elles ont des cicatrices importantes au niveau du ventricule, du cœur, eh bien c'est à risque de faire des troubles de rythme graves. Le film qu'on a montré, qu'on a projeté tout à l'heure, l'arrêt cardiaque par trouble du rythme ventriculaire grave, la fibrillation ventriculaire, ben c'est juste l'expression d'une cicatrice d'infarctus pris en charge trop tardivement. Vous savez aussi des femmes, on découvre leur maladie coronaire au stade de l'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire quand elles sont essoufflées, qu'elles prennent du poids, qu'elles sont fatiguées. Donc là, c'est les signes de l'insuffisance cardiaque et on ne pense pas à cette maladie du cœur avec ces symptômes-là, quoi.
Il y a aussi donc plusieurs facteurs de risque qui touchent directement les femmes. Par exemple, avec les prises de contraception avec œstrogène de synthèse, l'endométriose, aussi le facteur de stress.
En fait, les femmes, elles ont des facteurs de risque classiques, mais on sait avec les registres épidémiologiques qu'ils sont plus méchants sur une artère de femme que sur une artère d'homme, parce qu'ils vont aller empêcher l'action protectrice des œstrogènes naturels. Après, on a des facteurs de risque spécifiques qui sont liés à notre statut hormonal. Avoir ses règles à 11 ans, c'est associé à un surpoids après à l'âge adulte. Le syndrome des ovaires polykystiques ou l'endométriose, on donne des médicaments pour éviter à ces femmes de souffrir et mettre les ovaires au repos, mais ça les fait grossir. On a parlé du cancer du sein quand on a une radiothérapie, une chimiothérapie. Avoir une migraine, les jeunes femmes ne savent pas quand elles sont migraineuses, en surpoids, ou migraines, par exemple, ophtalmiques avec des petits troubles visuels, eh bien, les œstrogènes de synthèse, ça multiplie par 20 à 30 le risque d'accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire une artère qui se bouche dans la tête. Donc ça, c'est super important qu'on ait cette connaissance. Et enfin, vous avez, les femmes font plus souvent que les hommes des maladies inflammatoires, rhumatologiques, pour lesquelles on donne des traitements, qui là aussi ont un risque métabolique et vieillissent l'artère prématurément.
Que vous confient les femmes quand elles viennent vous voir par rapport au bus des femmes ?
Elles sont déjà très heureuses, elles n'en reviennent pas de la qualité du dépistage. Elles disent « on nous a écoutés, on a été entendus, on comprend maintenant pourquoi il faut se dépister, c'est ça, c'est l'enquête de satisfaction. On va en parler autour de nous, l'enquête de satisfaction. Et j'ai compris finalement que c'était important de prendre soin de moi et d'écouter mes symptômes. » Parce que quand on les interroge avec notre petit classeur de dépistage, on leur parle de symptômes qu'elles ne connaissaient pas. Et en fait, on va relier ces symptômes aux facteurs de risque qu'elles ont. Et en fait, c'est très didactique pour elles qui disent « Ah, mais je ne savais pas qu'être essoufflé en montant mes escaliers, c'est peut-être mon cœur. Ah, je ne savais pas qu'avoir une migraine avec des petits points brillants devant les yeux, c'était une contre-indication. Je vais en parler à ma fille qui est migraineuse. » Vous voyez, c'est ça. Donc elles sont pleinement satisfaites, oui.
Là, on parle beaucoup du fait des décès, donc c'est un regard qui peut être très anxiogène, mais il faut rappeler que dans 81% des cas, il est possible d'éviter un décès dans les maladies cardiovasculaires.
Tout à fait. En fait, le repérage, contraception, grossesse, ménopause, l'hérédité qui va vous faire checker plus rapidement et plus fréquemment peut-être le diabète, le bilan lipidique, la femme fumeuse, on va peut-être aller plus rapidement à un examen qui maintenant sauve des vies de femmes, qui est le coroscanner. Donc voilà, maintenant, c'est dire aux femmes, ne faites pas l'autruche, Vous êtes d'une famille d'hypertendus, vous êtes d'une famille de coronariens, une famille d'AVC, demandez à vous faire dépister régulièrement.
Aussi, il ne faut pas rentrer dans le préjugé du fait que les femmes précaires sont plus touchées. Non, vraiment, toutes les femmes sont touchées. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'aller se faire dépister, ou en tout cas d'avoir un suivi régulier.
Alors, on va prendre l'exemple de l'hypertension artérielle. Ma pression qui est supérieure à 140-90 mm de mercure. Toutes les femmes sont concernées, toutes, qu'on soit précaire financièrement ou socialement ou pas. C'est un peu plus différent probablement pour l'obésité. On va avoir un taux d'obésité un peu plus important chez les femmes dites vulnérables parce qu'elles n'ont pas forcément la possibilité pécuniaire de manger équilibré. Donc ça, c'est moins vrai. Mais le stress, la charge mentale, que vous soyez précaire ou pas, on a toute la même charge mentale. On a notre travail à assurer, la maison à assurer. Donc c'est compliqué d'être une femme active, même avec les nouvelles générations. Il y a quand même des tâches que vont quand même garder les femmes. C'est une question en fait de société.
Dernière question. Donc, au niveau du dépistage, quelles sont les 9 étapes clés lorsque les femmes viennent au bus ?
Elles vont rencontrer les équipes de la Caisse primaire d'assurance maladie locale pour voir si les droits sont à jour et pour leur présenter les services d'éducation à la santé. Et après, on rentre dans les 9 étapes du dépistage. Entretien avec un médecin. Ensuite, mesure, pression artérielle, poids, taille, dosage biologique avec un petit prélèvement de sang au bout du doigt. Entretien avec une addictologue quand elles fument ou qu'elles ont d'autres addictions comme l'alcool, par exemple. Ensuite, pour les plus à risque, elles auront un électrocardiogramme, un Doppler artériel de repérage et plaques. Et ensuite, elles auront une formation à l'automesure tensionnelle. Puis elles remonteront rencontrer le médecin qui fera la synthèse du dépistage et le petit courrier pour le médecin traitant.